Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est l'hiver et bientôt Noël et donc on a décidé tranquillement de faire la promotion d'un super jeu à s'acheter et à mettre sous son sapin. Ou pas, peut-être que ça va pas du tout être un truc de promotion en fait. On va écouter les retours de Jérémy Klein. Jérémy Klein, ça va la pêche ?
Ouais, la pêche.
Les retours sur Vadémécom. Tu as fait jouer Vadémécom à l'intégralité de ta table et tu vas pouvoir nous raconter tout ça. En compagnie de Jéroès de Poitiers, ça va la pêche ?
Ça va, the pitch.
The pitch. Nous sommes également avec François Néron.
Ça Salut, The Banana.
The Banana. Alors vous deux là, vous en êtes où de Vadémécom ? Jérôme, est-ce que tu as eu l'occasion de faire jouer à ce jeu ?
Oui, j'ai une table qui a commencé, ça va peut-être être compliqué de finir, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le jeu.
D'accord, ouais.
Et une table qui a fini le jeu.
D'accord.
Sans compter qu'avec François, on avait participé à un playtest, donc j'ai fini le jeu aussi en tant que joueur.
En tant que joueur, voilà. François, fini par, en tant que joueur, tu as fini de jouer au jeu, puisque tu as fini le playtest avec moi. Ouais. Et par contre, tu n'as pas encore fait jouer.
Non, pas encore.
Et tu réfléchis aux à l'éventualité de le faire.
J'ai acheté le livre, je l'ai lu.
On a trois stades différents. Celui qui a fini, celui qui est
pas encore réussi à trouver des joueurs disponibles.
Et celui qui va. Et puis Flavie arrivera en cours de podcast probablement pour nous parler de son expérience, son ressenti. Elle a amplement participé à la création du jeu avec moi, donc elle pourra parler de son ressenti en tant que créatrice aussi d'une bonne partie du contenu de Vadémécom et en tant que playtesteuse, puisqu'elle a fait plein de tables différentes et plein de versions de Vadémécom différentes. Ce sera intéressant d'avoir son retour.
Je pourrais éventuellement aussi aborder les retours de mon ami Garrick, qu'on entend des fois dans ses micros, qui lui a deux tables en cours, il me semble, à ce stade.
D'accord, ok. Très bien. Donc, on a différents retours maintenant du jeu. Ça me fait plaisir d'entendre des retours progressivement s'accumuler parce que le jeu, c'est bien précommandé. Mais, ben, ma foi, les ventes ne sont pas terribles. Hein. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens à. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens à jouer à Vadémécom. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens à l'avoir joué jusqu'au bout, etc. etc. Du coup, j'ai vraiment hâte, Jérémy, d'avoir ton retour, de savoir quel est ton ressenti sur le jeu.
Ok.
Je t'écoute. Et là, je stresse.
Tu stresses. Pourquoi il faut stresser ? Tu regardes mon sourire.
Ouais, bah justement. Je connais le sourire du ludothécaire, là. Ça me fait peur.
Le retour est pour moi plutôt positif.
Ouais !
Dans l'ensemble ! Ouais !
Bon, c'est bon, on a tout dit.
Voilà.
Jouez bien.
C'est tout pour moi. Au revoir. Bon Noël. Et après plutôt, les vacances.
Il a dit plutôt positif.
Oui, il y a des remarques. Il y a bien sûr différentes remarques. Et puis surtout, j'ai aussi des retours de mes joueurs qui sont très différents.
Il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup dans ton expérience, Jérémy. C'est que toi, tu ne fréquentes pas de rôlistes. Tu fréquentes des joueurs de jeux de plateau.
En fait, les rôlistes que je fréquente sont ce lieu-là.
Sont autour de cette table.
Oh mon Dieu.
Ou pas loin.
Ouais, voilà, ils sont à moins de 100 mètres, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, je ne connais pas beaucoup de rôlistes. J'en connais un à qui j'ai déjà initié des parties de jeux de rôle en manière traditionnelle, parce que c'était surtout du Donjon et Dragon, ou du Pathfinder, enfin, dans le même esprit en tout cas.
D'accord, ouais.
Et puis j'avais fait déjà des petites initiations à la ludothèque avec certains groupes, mais c'est des étudiants qui sont maintenant partis à droite à gauche parce qu'ils sont étudiants et ils ont leur spécialité. Donc du coup, le premier défi quand on commence un Vadémécom, dans ma situation, c'est trouver des joueurs.
Jérémy.
Les joueurs, du coup, j'avais potentiellement entre 6 et 8 joueurs au maximum, on va dire au moins 6.
Tu voyais au moins 6 joueurs potentiellement intéressés
donc
par
là, dans l'idée, j'étais parti de faire 2 tables.
D'accord.
Puis, comme sentant déjà la difficulté pour certains d'être disponibles certains soirs de week-end, et que moi, je voulais quand même que la campagne soit faite assez rapidement quand même, je me suis retrouvé avec du coup 4 joueurs et pour faire une table. Le jour J a commencé, j'ai eu 3 joueurs, le 4e a été très malade, c'est pas grave, on a quand même commencé, heureusement le jeu permet d'avoir 3 joueurs plus le seigneur dans la partie pour pouvoir lancer, et donc du coup on a fait la campagne en 2 semaines.
Ah ouais, donc vous avez joué sur une période de temps court.
On a essayé de serrer 2 semaines ou un peu plus, peut-être un peu plus, je m'en souviens plus. Mais on a essayé, en tout cas, d'être régulier, d'avoir forcément un rendez-vous pour la prochaine séance. Vu que c'était 3 joueurs, je me suis dit ça devrait tenir en 4 séances.
Ouais.
Et absolument. Pour le coup, vu la situation de ma partie, moi, ça durait 3 séances.
D'accord.
Je vais expliquer le pourquoi du comment. Mais c'est 3 séances complètes. C'est-à-dire qu'on a fait quand même les 4 séances. C'est juste qu'on a réussi à aller un petit peu plus loin à chaque séance pour manger un bout d'un séance l'une et l'autre. Et on a pu avancer comme ça. Les joueurs. Donc,
alors,
du coup,
qui étaient tes joueurs ou tes joueuses ?
Exactement. J'avais 2 joueuses. 2 joueuses qui n'avaient jamais essayé le jeu de rôle. Ils connaissaient du coup le monde du jeu de société par l'intermédiaire de la ludothèque, puisque j'ai essayé de voir avec mes habitués qui aiment le jeu, leur présenter une nouvelle expérience de jeu. Et je sentais une certaine frivolité vis-à-vis de ce média spécifique qu'est le jeu de rôle, en disant, vous inquiétez pas, j'ai un jeu qui arrive, donc là du coup, le jeu est arrivé, au bout d'un moment, qui s'appelle Vadimécom, et c'est bien, c'est parce qu'on va s'appuyer aussi
sur du matériel.
Sur du matériel qui va donner des aspects un peu jeu de société. Et le jeu va vous aider à faire du jeu de rôle pour vous initier au jeu de rôle. Je pense que c'est un très bon jeu pour initier au jeu de rôle. C'est comme D'accord. ça que je l'ai présenté. Donc, du coup, les personnes disent ok, on va dire pas prendre le risque, mais ils ont confiance en moi. On fait ok, on fait une campagne. Et puis j'ai appelé mon habitué qui faisait du Donjon Dragon, dire bah voilà, là, j'ai un jeu un peu différent du classique Donjon Dragon qui moi m'ennuyait terriblement, et donc on avait vite arrêté au bout du compte.
Ouais.
Et lui, le jeu de rôle, ça avait l'air de bien le triper, donc il était tout à fait partant pour.
Alors attends, t'avais un rôliste expert Donjon et Dragon.
Expert.
En coup, un joueur de un rôliste.
Un rôliste, ouais, voilà, qui en a fait quelques parties.
Et 2 non-rôlistes.
Et 2 non-rôlistes. Du coup.
Jérôme, faut dormir la nuit.
Oh non, non, Jérôme, tu nous lâches pas.
C'est pas facile.
Sinon, j'aurais l'impression de faire une interview. distribution des rôles. Mon habitué a pris Bishop. J'ai un peu orienté dans ce sens-là. Parce que Bishop, c'est plutôt sympa pour lancer un peu les enquêtes, les énigmes, les mystères de Vadimécom. Et du coup, j'avais laissé libre choix du coup, à mes 2 joueuses à choisir entre King et Queen.
Voilà. Et, autant King, je comprends que ça puisse être un perso de débutant. Autant Queen, je me dis, oh là là, mettre ça dans les mains d'une débutante.
Ouais,
wow.
C'est pas forcément. Ouais. Ouais, c'est pas
et ayant joué quoi. Moi-même Queen, je trouve ça costaud.
C'est solide.
Et ça a été costaud pour elle.
Ah.
Et oui, ça n'a pas été forcément évident pour elle, effectivement. J'ai essayé de la rassurer, bien sûr, en cours de la campagne. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, le déroulement des séances s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que j'ai senti, vis-à-vis de mes 2 joueuses, une certaine frivolité à jouer leur personnage.
Ça fait 2 fois que tu dis frivolité, tu veux dire frilosité.
Frilosité.
Oui, pardon.
Ouais. C'est pas la même chose.
Oui, excusez-moi.
Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète. Une frilosité. C'est-à-dire, elles se sentaient pas à l'aise dans leur personnage.
C'est ça.
Alors, tu dis à jouer leur personnage.
Enfin, pas à l'aise à jouer leur personnage.
Est-ce que ce qui est important dans ta phrase, c'est le mot jouer ? C'est-à-dire, pas à l'aise à jouer le personnage ou pas à l'aise à jouer le personnage ?
Ouais. Tu vois ce que c'est le jouer qui a été pas à l'aise, parce que justement c'est quelque chose qu'il ne savait pas faire, enfin n'avait pas eu cette expérience là, et donc du coup c'était pas forcément évident pour eux sur cet aspect là. Heureusement, le jeu a ses ressources qui permettent quand même, l'histoire avance, qui permettent quand même de prendre du plaisir parce qu'il y a différents supports. Et ces supports ont permis quand même de générer des discussions entre les joueurs, donc des discussions entre les personnages, pour que l'enquête avance et qu'on ait un bishop qui a été générateur d'hypothèses, de différents chemins dans lesquels les joueuses ont quand même pu s'insérer.
ce que tu es en train de dire, c'est que pour François. Ces deux joueuses, l'immersion dans leur personnage était assez limitée, mais qu'elles ont quand même pu profiter du jeu de par le côté résolution d'énigmes, les combats, l'action, ce genre de choses. C'est ce que j'en comprends, c'est
bah
ce que
déjà, tout le côté plateau, pour eux, c'était assez facile, parce qu'elles connaissaient déjà l'univers du jeu de plateau. On avait déjà fait des jeux...
Autrement plus complexes, en plus, parce que c'est pas un jeu de plateau très compliqué.
Oui,
comme...
voilà. Donc, du coup, là-dessus, au niveau des règles, ça s'est plutôt bien fait, bien passé. Et puis il y a les différentes cartes pouvoirs qui peuvent aussi aider un peu, et encore plus c'est les révélations. C'est-à-dire que les révélations, déjà dans la première séance, on a déjà quelques-unes qui sont révélées ou qui peuvent être trouvées, ce qui fut forcément le cas dans ma partie, et donc du coup ça génère quelque chose et elles font l'effort d'eux. Après il y a des règles, alors il y a des règles qui par contre elles sont moins utilisées. C'est-à-dire que c'est les règles plutôt d'introspection.
J'allais venir aux scènes d'introspection.
Voilà, et ben, il n'y a qu'un seul joueur qui a pu vraiment faire ces scènes d'introspection. C'est mon joueur Bishop. Donc, voilà pour les choses.
Attends, est-ce que tu veux dire que, pardon, parce que j'allais chercher une feuille pour prendre des notes, est-ce que tu veux dire du coup que les scènes d'introspection sont des scènes qui sont finalement difficiles pour des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle ?
Je pense.
D'accord.
Tu trouves ?
D'accord. Ben, en tout cas, là, c'est ce que j'ai remarqué avec mes joueuses.
Oui, mais c'est...
Non,
mais
ça, je reviendrai après sur, avec mon expérience, mais je vais confirmer.
D'accord, je ne conteste pas le constat, ça me correspond pas à mon expérience, mais c'est un constat.
Mon joueur Bishop, lui, a bien vu l'intérêt ludique de faire des scènes d'introspection, parce que ça permet d'avoir un avantage... Ouais.
Sur les points de souffrance.
Voilà, exactement.
Mais fin, Queen, elle aurait dû se dire que c'était un avantage aussi, obtenir des points de souffrance. Pour faire
mais je pense qu'elle n'en était pas là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu dis, c'est une nouvelle joueuse qui a eu un personnage qui n'est pas facile à jouer, parce que c'est un personnage, on peut le dire, c'est le départ, c'est même le premier personnage qu'on joue à l'introduction, qui est paumé. Dans tous les sens du terme. Et donc du coup, ma joueuse s'est retrouvée paumée dans tous les sens du terme. Et ça, ça a été un frein. Pendant longtemps, pendant la campagne, j'ai même eu peur que du coup, là, quelque chose tourne un peu au vinaigre. Heureusement, la dernière partie, la deuxième moitié de la campagne, où là, les révélations commençaient à s'installer petit à petit, elle a pu un peu plus s'assurer. Et
quand tu dis quelque chose allait tourner au vinaigre, tu fais référence à quoi ? Excuse-moi, Jérémy, c'est pas clair.
Je pense qu'elle était complètement paumée. Donc, du coup, au bout d'un moment, même si le jeu de plateau, elle pouvait manipuler, l'histoire, elle n'était pas dedans. C'est-à-dire qu'elle subissait l'histoire. Contrairement aux deux autres.
Ah, c'est énorme, ça.
Contrairement aux deux autres, parce que même si mon joueur...
En gros, elle écoutait l'histoire d'une oreille distraite, attendant que les scènes de combat aient lieu pour enfin pouvoir jouer au jeu qu'elle aimait bien.
Alors, je dirais pas ça. Je pense qu'elle voulait comprendre l'histoire. C'est juste que comme elle était paumée dans son identité et que l'histoire est quand même assez riche, qu'il y a pas mal de choses, qu'il y a des révélations, et puis elle espérait avoir des informations beaucoup plus vite, de dire, mais moi, je suis qui? Je fais quoi, au bout du compte? D'accord. Je pense que c'était ça. C'est se dire, mais au bout du compte, je fais qui? Je fais quoi? Qu'est-ce que je peux me permettre de faire?
Le problème pour jouer Queen, c'est qu'il n'est pas évident de se rendre compte que ces interrogations-là sont normales pour le personnage aussi, et qu'en fait les jouets elles-mêmes est un élément dans le jeu de ce personnage-là.
Exactement. Alors bien sûr, je l'ai rassuré à ce niveau-là pour dire t'inquiète pas, c'est normal, c'est vraiment surtout la première séance, de dire t'es complètement paumé, c'est voulu, c'est pour poser toutes les questions qu'il y a autour de ton personnage et des relations qu'elle peut entretenir avec les différents personnages autour de la table.
Juste question, Romaric, avant qu'on continue, parce que là on parle déjà d'éléments de jeu tels quels, est-ce que là dans ce podcast on s'adresse à des gens qui ont lu le livre? Comment
c'est
ça
possible,
se passe
si parce c'est que, possible du coup, de faire un retour critique de Vadémécom sans spoiler, ce serait super cool.
Parce que dans l'idée, je sais pas si c'est possible pour toi, parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'on explique pourquoi est-ce que Queen peut être particulièrement difficile à jouer, rappeler qu'elle est amnésique.
Voilà, mais ça c'est dans le background du jeu, donc c'est pas très grave. Voilà, effectivement, Queen est un personnage amnésique, et surtout c'est l'archétype du magicien, donc il va disposer d'un certain nombre de sorts au cours du jeu.
Et qui a une vision du monde particulière aussi.
Et qui a une vision du monde assez particulière aussi, effectivement. Donc du coup, tout ça c'est dans le prérequis du personnage de Queen, donc on le spoile pas.
C'est pas du spoil, mais si c'est pour des gens qui l'ont pas forcément lu, c'est pas mal de le rappeler.
Ouais, voilà, d'accord, ok, très bien, c'est un point pour toi. Donc effectivement, et du coup, bah, oui, c'est un personnage qui est assez technique, à la fois de, technique du point de vue du roleplay, on va dire, parce que c'est un personnage amnésique, donc c'est toujours très difficile à jouer, très difficile à comprendre ce qu'on attend de toi. Et puis c'est un personnage qui est très difficile à jouer aussi d'un point de vue gameplay, puisque effectivement, elle a un certain nombre de sorts à sa disposition. On sent bien que ses sorts ont un aspect...
Oui, c'est sûrement le personnage qui est le plus compliqué, à la fois, parce qu'il est compliqué sur les deux plans, sur le plan roleplay et sur le plan jeu de plateau, si on veut séparer un peu ces deux choses-là.
C'est vrai. King serait le personnage le plus simple en ce sens, puisqu'il est à la fois simple.
King n'est pas forcément très simple à jouer sur le plateau, je sais pas. Enfin, si ses mécaniques sont relativement simples.
Non, mais... je trouve plutôt simple.
Oui.
Ouais, King, quand je l'ai joué,
King se joue pas mal.
Ouais. C'est pour ça que je voulais vraiment que ça soit quelqu'un qui connaissait pas le jeu, qui fasse King.
C'est vrai que
Bishop. Et justement, Bishop, je me suis dit, il fera un bon tremplin en cas de blocage.
Ouais.
Ouais, je pense que t'as bien réparti tes rôles, Jérémy. T'avais drôlement bien réparti les rôles. Ouais, je pense que t'as eu raison. Et du coup, avec King, la joueuse se sentait à l'aise ?
Oui. Même s'il n'avait pas ce côté replay, elle était à l'aise avec l'histoire, à l'aise avec ce qu'il fallait faire dans le jeu. Ça manquait juste un peu des fois de couleur dans son personnage, dans son interprétation. Il fallait des fois, je rappelle, dire « ne citez pas les cartes ». Faites-le jouer par l'intermédiaire de votre personnage. Mmh. Il y avait donc ces petits détails-là qui pouvaient venir.
Ne dites pas j'utilise tel pouvoir, dites voilà. Je me déplace, je vais à côté de cette chaise.
Réfléchis pas en jeu de plateau, tu joues ton personnage. Ouais. Il y avait un peu de ça.
Rappelez ce contrat social-là.
C'est ça. Voilà
c'est
pour ça.
C'est hyper intéressant comme retour d'expérience. Je m'attendais pas à ce que tu aies fait jouer en fait, des non-rôlistes et du coup, ça va être un ultra enrichissant.
Je prends avec ce que j'ai et puis en même temps, ils voulaient découvrir cette expérience-là et je voulais en plus les rassurer de dire au pire des cas, l'aspect le jeu de plateau qui va vous plaire.
Ah mais tu sais que tu dis je prends avec ce que j'ai mais moi c'était aussi ma cible.
Bah oui,
tu vas être surpris Romaric après quand je vais parler.
Ah ouais, parce que toi c'est l'inverse, c'est des rôlistes et ça marche pas ou je sais pas non.
C'est des rôlistes, c'est le même retour. Pour l'instant je suis en train de noter et j'ai que des points communs.
Ah bah c'est bien. Pourquoi enfin, c'est bien et pas bien, oui d'accord. Jérémy, pour l'instant moi je suis assez satisfait des retours que j'entends.
Ouais, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est surprenant par rapport à ce que tu penses là du fait que ce sont des personnes non rôlistes. Moi, je te dis qu'avec des rôlistes, ça peut faire les mêmes effets aussi.
Ah, d'accord, ok. C'est ça que tu veux dire, ok.
Ah oui, donc là, ça sera un problème.
Là, c'est un problème, ouais, effectivement. Jérémy.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport. Alors, les petits points d'accroche. Les cartes pouvoir. C'est-à-dire que là, on commence à faire une campagne qui avance bien, du coup, parce que des fois, les interactions sont beaucoup plus rapides. Et moi en plus je suis pas le MJ sadique, c'est-à-dire que mes phases jeu de plateau, même si c'était pas non plus une balade de santé, c'était pas l'objectif, je ne cherchais pas non plus que ça soit long et pénalisant en disant je t'ai touché, il faut que tu prennes une potion de vie pour ressusciter, ah je te retouche derrière, il faut que tu reprennes des potions de vie derrière. Je voulais pas rentrer dans quelque chose comme ça. Je voulais juste mettre assez de tension pour quand même qu'il y ait, bah, il y a quand même des enjeux, il faut que je fasse attention, il faut que je me protège, il faut quand même que je me soigne à un moment ou à un autre. Il y a quand même des personnages qui tombent, mais je voulais pas que ça soit que central. Je voulais aussi à un moment vraiment qu'à chaque tour, il y a quelque chose qui avance, qu'on avance pour... parce que j'avais peur, en fait, qu'un de mes joueurs me dise « Ah non, mais je vais pas pouvoir dans deux semaines. » Et puis ensuite, on dit « Ah, mais après, c'est les vacances, c'est moi qui peux pas. Ouais. » Et repousser la prochaine séance après des grandes vacances.
Alors que t'as déjà une joueuse qui est paumée dans l'histoire. Alors là
je me dis, si on fait un saut de deux semaines, je sais que c'était mort. Il fallait vraiment que les séances soient au plus tard deux semaines d'intervalle. Mm-hmm. Parce que je sais qu'après, on pense à autre chose.
Ça, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai pas donné dans Vademecum, mais c'est vrai que quand on joue avec des joueurs...
La question du timing est importante.
Ouais. Les parties devraient être assez peu espacées au final. C'est bien de jouer... Alors, de jouer 24 heures non-stop, c'est une très mauvaise idée. D'accord.
Ouais,
parce que c'est vrai que le jeu vend du rêve, on dit oui, on va pouvoir jouer 24 heures chrono. Du coup, il y a des MJ qui se sont dit bah on va jouer pendant 24 heures en non-stop. Il y a des MJ hardcore.
C'est trop.
Il faut surtout
on va manger 24 pizzas non-stop.
Il y a des pratiques rôlistes qui sont comme ça. J'ai par exemple Olivier Sten par exemple qui est quelqu'un qui aime beaucoup les parties extrêmement longues, qui aime bien s'enfermer un week-end avec un JDR et avec ses potes. Ouais, il y a des gens qui pratiquent comme ça et du coup quand on leur vend avant 24 heures chrono, ils disent putain, enfin un jeu de rôle qui est fait pour ma pratique, auquel on va pouvoir jouer 24 heures non-stop. Et ben ça, c'est une énorme erreur, parce que Vademecum n'est absolument pas fait pour jouer 24 heures non-stop. Le Seigneur, et c'est dit dans la base, le Seigneur est beaucoup trop chargé, il y a beaucoup trop de responsabilités qui pèsent sur le Seigneur. C'est écrit qu'il est difficile d'être Seigneur dans la base. C'est beaucoup trop difficile pour lui pour pouvoir assumer 24 heures de jeu non-stop. C'est des séances de 4 heures, 5 heures maximum pour un MJ solide. Quoi,
ça tenait sur 5 heures. Hein.
C'est très. C'est pas pour les joueurs, je dis pas. Alors, Flavie aurait un autre retour.
Je pense quand même les joueurs.
Ouais, Flavie disait justement que pour les joueurs, c'est extrêmement fatigant aussi.
Pour avoir été aussi joueur en playtest, je sais aussi que ça peut être un côté fatigant et je l'ai senti aussi avec mes joueurs. Ça permet de bien avancer, mais c'est bien aussi de faire une pause, de souffler, de prendre un peu de recul et de revenir et de se réinsérer.
Et là où j'ai merdé, pour aller au fond de ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas mis dans la base qu'il fallait pas trop espacer les séances de jeu. C'est-à-dire, ok, il faut jouer 5 heures à des parties, mettons, entre 6 et 4 heures, mais il faut qu'entre chaque partie, il y ait maximum un mois ou deux qui se passent.
Pour qu'il y ait quand même un sentiment de continuité. Oui.
Ouais, exactement. Parce que sinon, il y a des choses qui nous échappent, des petits indices. Ouais.
On lâche
un peu. Donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas précisé dans la base.
Ouais. On n'est pas obligé de rentrer dans cet extrême-là. Et moi, j'avais, malgré tous les problèmes que ça a pu engendrer, apprécié le rythme qu'on a eu. Alors, c'était pas 24 heures d'affilée.
Non, pas du tout. On n'a pas joué. Ouais.
Mais on a joué sur un week-end, Vademecum. Ouais, c'était déjà très rapide.
Ça se fait.
Je ne recommanderais pas de le faire aussi vite parce que malgré tout, on a perdu quelque chose en route. Il y a quelques scènes qu'on n'a pas jouées, il me semble.
Non, vous avez joué toutes les scènes.
J'aurais mieux apprécié si ça avait été pas sur un week-end.
Un peu plus long, ouais.
À la fin, on était crevés, clairement, mais un rythme un petit peu plus étendu que ça me semble être quelque chose de tout à fait possible sur Vademecum.
Je suis d'accord, ce qu'on n'avait pas joué ensemble, c'est surtout ces phases où on joue son personnage, vraiment. C'est vrai que vous aviez été plus... vous n'aviez pas pu approfondir vraiment vos personnages.
On a quand même fait pas mal de scènes d'introspection.
Ok, alors c'est pas vous qui m'avez fait ce retour-là. Je me trompe de table de playtest.
Et on a beaucoup discuté entre personnages sur des théories qu'avaient nos personnages et pas vraiment nous-mêmes.
Donc c'est pas cette frustration-là que vous avez.
Non.
Ok, donc je suis en train de confondre.
Enfin, pas moi en tout cas. Et je crois pas que les autres à la table avaient ressenti la
même. Moi non plus.
Donc Jérémy, c'est pour ça que tu as mis que 3 séances à faire le jeu du coup ? T'as mis le booster à un moment donné pour te dire ouais, il faut que ce soit fini rapidement.
Du coup, oui, les scènes de combat peuvent être beaucoup plus longues. Si on veut être beaucoup plus sadique et si on veut vraiment que les scènes de combat soient plus longues, je voyais pas l'intérêt.
Je suis pas sûr que ça fasse partie de l'esprit du jeu. À mon avis, ça doit être rapide, dynamique. On n'est pas là pour balancer 99 potions histoire de tenir en vie contre un boss beaucoup trop fort.
Exactement, pour dire oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, j'ai utilisé 99 potions. Je veux dire, on n'est pas dans le boss de Sephiroth dans FF7, en tout cas pendant toute la campagne. Autant le dernier combat, le dernier boss, pourquoi pas mettre un peu plus de temps de pointer là-dessus. Le faire pendant toutes les scènes de combat, moi je voyais pas l'intérêt.
Et c'est bien précisé là aussi dans la base que le seigneur doit jouer ses PNJ, donc les pions noirs, comme si il était une IA de jeu vidéo mal branlée, quoi. C'est-à-dire ils se soignent pas, ils foncent direct à l'ennemi, ils tapent un peu.
De toute façon, il me semble que pendant notre playtest, tu respectais un timing limité. Pour les jouer chaque tour.
Exactement, une minute.
Ce qui veut dire que tu n'avais pas le temps d'optimiser les mouvements pour l'intégralité des pièces sur l'échiquier.
Ouais.
C'était pas possible.
Exactement.
Cependant, ça avait aussi comme effet que quand on tuait tous les petits sur le plateau et qu'il restait que le boss du coup réfléchissait un peu plus longtemps que ce qu'il faisait avant, ce qui faisait que la difficulté montait pour le boss au fil du combat, ce qui est une dynamique assez sympa, je trouve.
D'accord, ouais. J'avais pas fait attention à ça, mais t'as raison maintenant que tu le dis.
J'ai beaucoup remarqué ça sur un combat à l'aéroport. Je n'en dirai pas plus.
D'accord, ok. Jérémy.
Du coup, à chaque début de séance, moi j'utilisais un petit pouvoir d'un personnage pour faire un peu le résumé de ce qui se passe aussi avant. C'est tout bête, mais au moins ça me permettait de mettre l'ambiance. C'est-à-dire que déjà, je suivis les conseils de musique que tu as mis dans la base. Ouais. Et je trouve qu'elles vont très très bien avec le jeu. J'attendais un petit peu que cette musique s'installe autour de la table. Puis je demandais à un de mes personnages d'utiliser une de ses capacités qui permettait quelque part de dire je vous fais un peu le résumé et en même temps je laissais des indices aussi pour des trucs futurs. J'en dirai pas plus, vous découvrirez ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Oui, au niveau du système de combat, bah, du coup c'est très jeu vidéo, donc pareil la musique est importante là-dessus. Et comme la musique est assez punchy quand même, bah, encore une fois, ça explique aussi ma vitesse, il faut y aller, il faut avancer.
Okay.
Donc voilà pourquoi ça a tenu 3 séances.
D'accord.
Et c'était bien comme ça, pour moi.
Alors, question plus générale, qu'est-ce qui a bien marché selon toi ? Et puis après, qu'est-ce qui a mal marché selon toi ? Ou on peut commencer peut-être par l'inverse, ce sera peut-être...
Histoire de finir sur une bonne note.
Voilà, c'est
tu
ça.
Veux finir, ok, avant tu veux Noël. Finir sur la bonne note. Alors, les mauvaises notes. Trop de cartes pouvoir. C'est bien d'avoir du choix. Mais au bout d'un moment, plus on avance dans le jeu, plus il y a de cartes pouvoir. Et plus les joueurs se sentent peut-être un peu paumés par rapport à les informations. Surtout que je pense qu'il y avait moyen, quelque part, de diminuer ce nombre de cartes en faisant une sorte de remplacement, en fait. C'est même pas le fait que les pouvoirs soient compliqués à comprendre, c'est pas du tout ça le problème.
C'est de dire remplacer telle carte
par telle autre. C'est dire, comme ce pouvoir, on l'utilise beaucoup moins parce que celle-là est devenue plus puissante, dire bah celle-là remplace une sorte de upgrade de la carte 1, par exemple. Ah. T'as la carte 2 et t'as la carte 1. Ce qui fait que t'aurais 4-5 cartes devant toi au lieu de 10. Enfin, je dis 10, mais on n'a pas atteint
les
10.
C'est sur un retour de tes joueurs, ça ?
C'est sur l'ensemble. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti vis-à-vis d'eux en disant « Oh, ils commencent à regarder, à être un peu paumés. » Et les trois joueurs ont fait ce retour. Enfin,
d'accord.
En leur posant la question, c'était un peu un point faible. Mm-hmm. Ça ne les a pas non plus bloqués. Mais voilà, ça fait partie justement des petits trucs qui pourraient nous faire sortir du jeu.
Okay.
Trop de temps passé à regarder ces cartes et pas assez à écouter la fiction, à regarder la fiction.
C'est pour
ou à regarder
tous les joueurs. Parce que ça me surprend pas forcément pour Queen, qui a un espèce de panel de pouvoir assez varié, qui fait partie de la complexité du personnage. Par contre, il me semble bien que King a certains pouvoirs en copie plurielle au fur et à mesure de ses montées en niveau.
Oui, mais du coup, elle a peur de... Encore une fois, tu dis, est-ce que j'ai pas loupé une information quelque part ? Je dis, quand t'en as 10, et encore une fois, il y a 2 semaines qui se passent, tu te souviens plus forcément de tous les pouvoirs. Ouais. Dis, ah, mais attends, est-ce que je l'ai vraiment utilisé ou pas ? Donc forcément, tu regardes un peu les 10. Alors, c'est juste des coups d'œil, mais ça suffit pour perdre 30 secondes. Mine de rien, 30 secondes comme ça, ben faut les compter, 1, 2, 3, enfin, je ne vais pas vous le faire, mais 30 secondes, ça peut être long.
Ouais.
La deuxième chose qui, pareil, casse le rythme au niveau du système de combat, c'est tout ce qui est de l'ordre du calcul. Pourtant, le système est simple. On jette 2 dés, on fait la somme, on rajoute notre bonus d'attaque. On compare à la valeur de défense de...
On fait la différence, on l'enlève au PV.
Voilà. Mais du coup, ça fait alors 6 plus 5 plus 4 et la défense est 3 plus 2 plus 7. Hein, on fait le calcul. Ah oui, donc c'est supérieur. Comme c'est supérieur, je touche. Alors je touche, mais t'as la aiguille, ce qui fait que ça diminue de temps. Bref, c'est des petits calculs, encore une fois, ça prend 20-30 secondes, mais comme les combats, c'est quand même plusieurs tours.
Et après, il faut diviser ça par 2 pour une autre mécanique, enfin, c'est compliqué.
Ouais. Voilà, petits calculs, c'est des petits calculs.
Compter des points de souffrance en plus, parce que voilà, c'est compliqué.
Et là, on se dit, ah zut, ça, pareil, ça casse un peu le rythme là-dessus.
D'accord, ouais.
Ça, pour moi, ce sont deux points d'accroche. Ouais, je dis, ah zut,
ouais,
dommage.
Ouais, ok.
Ah zut, dommage. Est-ce que j'ai d'autres ? Je ne pense pas.
Est-ce que l'histoire a marché malgré un manque d'immersion un peu sur le début ?
Oui, bien sûr.
Sans raconter ce qui se passe, est-ce que les révélations ont été bien ?
Maintenant, on va passer au point positif parce que je n'en vois pas de négatif à l'heure actuelle. L'histoire a bien fonctionné, bien sûr. A bien fonctionné dans le sens où ils étaient intéressés par ce qui se passe. C'est intriguant tout ce qui se passe. Et ils voulaient en savoir plus. Et alors, surtout Bishop émettait des hypothèses. Les autres réagissaient vis-à-vis de ces hypothèses. Mais on avait un Bishop ahurissant parce que j'ai eu le droit à sûrement toutes les théories.
Cool, Flavie arrive.
Théories qui existent.
Tu peux prendre un micro, Fly, vas-y, installe-toi tranquillement. Donc, Flavie, je te fais rapidement un résumé de ce qu'on a déjà dit. Donc, on a présenté les joueurs et joueuses de Jérémy. Il joue avec 2 joueuses non expérimentées en jeu de rôle qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. 1 joueur de D&D qui jouait Bishop. Les 2 autres joueuses jouaient Queen et King. Il a joué en 3 séances. Ses défauts pour lui, c'est la complexité des calculs. C'est-à-dire, tu sais, les petits... quand t'attaques, tu dois calculer le dé...
Pour le MJ, tu veux dire ?
Oui.
Ouais.
Et le fait qu'il y ait pléthore de cartes à consulter, à compulser, il trouvait ça un petit peu... Voilà. Je te fais un résumé rapide de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Voilà. Et on voulait te demander un truc aussi, Flynn, tant que je suis est-ce que tu as trouvé qu'en tant que joueuse, ce jeu était difficile ? Que c'était quelque chose de fatigant ?
Non.
Non. C'est pas ce que tu m'as dit.
En fait, c'est pas tout à fait ça. Non. C'est que... Moi, j'ai testé deux versions. C'est un jeu exigeant parce qu'il faut réfléchir. Réfléchir beaucoup quand on est joueur parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, dans la mesure, c'est ce que tu entends par fatigant, je l'avais compris par fatigant au sens de... Ouais. Moi, j'aime bien en fait jouer. Donc, j'ai joué même à des jeux de stratégie type Magic. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ressemble à Magic, hein, mettons-nous bien d'accord. Mais du coup, oui, c'est exigeant ouais. parce qu'il faut à la fois réfléchir à ton roleplay, réfléchir à ce que tu vas faire, réfléchir aux différentes possibilités, réfléchir aussi aux énigmes, réfléchir à l'histoire en fait, qui se déroule, à essayer de trouver ce qui va se passer, etc. Et chaque mois, aux tables auxquelles j'ai participé... Ben, ça se faisait assez bien. Nous, on a réussi à trouver en fait pas mal de révélations avant l'heure en fait. Donc du coup, il y avait vraiment tout ça qui jouait et.
Mais on est stimulé intellectuellement quoi.
C'est fatigant parce que oui, à partir du moment où tu joues à un jeu un peu exigeant. À un moment, tu vas être obligé de réfléchir et tout, mais est-ce que c'est un défaut ? Je suis pas, enfin, c'est pas un défaut. Enfin, quand
c'est
on aime
une
jouer.
Propriété du jeu. Quoi.
Oui.
Je voulais justement poser la question, François. Jérémy. Est-ce que à ta table, ils ont beaucoup trouvé les révélations en cours de route ou pas ?
Ils en ont trouvé. Peut-être pas tant que ça, mais ils en ont trouvé. Surtout, ils ont trouvé des trucs des fois qui. Alors des fois, je regardais les fiches, je me disais, ah, c'est bien ce qu'ils font. Et la fiche n'y est pas.
Ouais.
C'est des trucs comme ça. Tu dis, ah, il y a des révélations. Je fais, oh la vache, ils ont trouvé.
Ouais,
mais il n'y a pas la fiche.
Même dans les problématiques, il n'y avait pas quelque chose pour les récompenser ?
Alors, pour certains, oui, puisqu'ils ont aussi trouvé des fiches problématiques. Mais il y a des choses. Alors, si maintenant que tu me le dis, je pense qu'il y a une fiche que j'ai dû donner à un moment en disant, ah, ça rentre un peu en lien, je vous fais cadeau de.
Je vois
de
très bien la quête de DLC en plus.
Donc, si, ça a dû arriver. Donc j'ai eu vraiment un Bishop qui de toute façon je pense qu'il est fan de science-fiction hein, c'est un geek puissance 10 mon Bishop
geek puissance geek
ouais c'est ça et du coup franchement il est plein d'hypothèses et il trouvait des trucs
mais je pense que quand tu connais bien les canons dont s'inspire le jeu
c'est plus facile.
C'est plus facile parce qu'à la table où j'étais, que ce soit Thomas, Ced ou moi, on était vraiment bercés dans tous les canons esthétiques en fait que tu as utilisés.
Ouais.
Et donc du coup, nous on en a trouvé vraiment plein, mais parce que ces canons esthétiques là et ces mélanges de genres là, on les connaissait en fait.
Exactement.
Donc du coup, tout ce mélange technologie, mystique, etc. On a l'habitude entre guillemets. Donc nous, il y a des choses qui même des fois pour rigoler, en disant on va faire ça, en fait c'était ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Parce qu'il y a ça dans une fiction qu'on aime bien.
Exactement.
Et, voilà.
Et du coup, King aussi a sûrement des références geek. C'est peut-être pour ça aussi que l'histoire était plus facile à rentrer. Ce qui est peut-être tellement le cas aussi pour Queen, qui n'avait pas cette dimension jeu vidéo, pas cette dimension forcément science-fiction derrière.
C'est difficile.
Même si, du coup, on arrive à l'intriguer sur certains justement domaines de science-fiction. Mais ce n'est pas son...
Oui.
C'est pas là où elle va pour s'intéresser au niveau des films ou des livres, par exemple.
Et sans ce bagage culturel, on va dire, de sur les jeux vidéo et les films associés, est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qu'on pourrait appeler des gimmicks un peu dans le jeu qui auraient posé problème ? Je pense notamment à Drugstore et ces magasins magiques qui apparaissent ça et là pour vendre du stuff à tel ou tel moment.
Sans la référence vidéoludique. Oui, mais ils ont une référence jeu de plateau aussi.
Oui, non, ça ne les a pas dérangés, parce qu'en plus, c'est clairement dit. Je dis, c'est clairement de la partie jeu vidéo. Attendez-vous à avoir des choses qui sont vraiment dans la logique.
Puis c'est
du
drôle,
jeu vidéo.
En vrai.
Mais oui, et puis c'est ça qui est drôle, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire très, très sérieuse, en tout cas dans le propos. Et en même temps, il y a la forme qui on joue sur un plateau de jeu avec des potions de vie, limite des queues de phoenix. On a un bishop avec une épée, voilà quoi.
On était en train de passer en revue les aspects positifs et on en était arrivé à l'histoire. Alors moi, j'ai très hâte d'entendre le retour de tes joueuses et de tes joueurs sur l'histoire. Ça m'intéresse.
L'histoire, je pense que c'est le point fort pour moi de Vadim.
Le plus gros point fort pour toi.
Est-ce que c'est le plus gros point fort ?
Ouais,
je pense que pour moi, l'histoire, c'est le point fort. C'est ce qui permet justement de maintenir les joueurs à cette réflexion. C'est-à-dire que du coup, comme il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'interroger, que les personnages, comme du coup, c'est des prêts tirés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une histoire, ces personnages, avant que je commence. Donc quand ils prennent un joueur, enfin un personnage, ils ont déjà pas mal de background, pas tout, mais pas mal de choses. Et donc du coup, c'est ça qui va happer les joueurs, à savoir mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Pourquoi, pourquoi ça part complètement cacahuète, j'ai envie de dire. Très bien. Et se dire, tiens, il y a une scène, ah, ça, ouh, c'est étonnant, dis donc, oh, j'aurais jamais cru. Des trucs un peu what the fuck, comme ça, mais, wow, ok, c'est ok. Puis une autre scène, oh, mais où est-ce que ça va ? Ouais. C'est pour ça que je pense que mon bishop, à un bon moment aussi, il a dû vite sentir le délire du truc, en disant, oh là là, il se passe ci, il se passe ça, ça peut aller jusque-là. Il s'est lâché. Il a fait tellement de propositions.
C'est rigolo que tu dises le « il s'est lâché » parce que moi ça me fait en fait écho à beaucoup de choses. C'est au début du jeu quand nous on a démarré. Je me rappelle que les deux parties que j'ai faites, parce que la première je l'avais pas terminée donc on a continué à refaire après. On était un petit peu au début sur le ça va être sérieux etc. On va tenir. Et à un moment, je vois très bien le moment là, c'est le moment où on se dit. Allez, on va y aller. On va y aller dans l'interprétation du perso. On va se lâcher. On va y aller dans les interprétations qu'on va faire de l'histoire. Et on s'en fout. Et on va pas essayer de rester dans du réaliste, en fait. On va aller dans le canon esthétique. Et il y a vraiment un moment là où tu fais un rush là-dedans. Et où tu te dis, je vais me jeter dans la potion.
Allez,
quoi.
Je me jette à l'eau. Quoi.
Ouais. Je me jette à l'eau. Imaginons que ce soit ci, imaginons que ce soit ça. Notamment à un moment, je me rappelle très bien, où Thomas m'a dit, ah oh, bah venez, on va dans mon labo et puis on va tester ci et ça. Et où on s'est mis vraiment à.
Thomas qui jouait Bishop.
Ouais. On s'est mis vraiment à y aller, en fait. Et où c'est là qu'en fait, on a commencé à trouver les révélations et à vraiment aller à
c'est
fond.
C'est vrai que
en fait.
Maintenant, là, tu me lèves un truc. J'avais pas pris en compte et réalisé la dimension se lâcher dans ce jeu. C'est vrai que si tu restes, il y a des joueurs qui restent parfois crispés et puis il y a des joueurs qui réussissent à se lâcher dans la description, à se dire allez, on y va à fond, on est dans un film d'action, c'est cool, on sort les guns, on enquête, on machin truc.
J'ai un bishop qui voulait sortir les scalpels et les lancer, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, mais ouais, la question c'est est-ce que dans Die Hard, est-ce qu'un personnage dans Die Hard ou dans un jeu, tu vois, dans un film d'action avec The Rock ferait ça ? La réponse est oui, mais encore oui.
Parce que moi je me rappelle donc, même coup, qu'à la table, il y avait Seth qui avait commencé à imiter Jack Bauer en faisant Put your gun down!
Put your gun down!
Et voilà, tu te mets à te lâcher, tu y vas dans le canon esthétique et du coup, tu te mets à aller aussi au contact avec les méchants. Et à partir du moment où tu vas aller au contact avec les méchants, où tu vas pas dire oh, je suis un peu, oh, je vais rester dans mon jeu de plateau, non, tu vas aller aussi au contact avec les méchants, tu vas y aller dans le roleplay et tout. Et là, on a commencé vraiment à découvrir des trucs parce qu'à partir du moment où tu vas au contact avec les méchants, tu te débloques en fait, c'est quelque chose.
C'est vrai qu'il y a un côté dans Vademecum où il faut oser, quoi. Faut oser faire des trucs,
faut oser dépasser ce côté. Peut-être je vais être ridicule à faire ça. Je m'en fous, c'est trop bien, on y va.
C'est compliqué. Il y a quelque chose autour de ça, en tout cas, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on se faisait la réflexion avec Flavie que Vademecum doit mieux marcher quand on est entouré de potes qui nous connaissent bien, qu'on est confortablement, parce que du coup on a plus cette timidité de se dire chacun partage un peu les mêmes références et
oui, puis, du coup avec qui on l'a, comme je disais Seth Thomas aussi, les autres personnes avec qui je l'ai testé, il y a eu Maxime, oui. Et Morgane et Cédric encore une fois, où on savait qu'on avait vu les références du jeu. Et donc du coup on a pu singer aussi les références du jeu.
Je me souviens à la fin de Morgane et de Maxime qui à chaque fin de combat il faisait une position, une espèce de guts pose. Et à chaque fois, il sortait une phrase genre ce n'était pas si difficile que ça, finalement.
Je crois même qu'à la fin, on t'avait demandé de télécharger la musique d'un fin de combat d'FF7 pour pouvoir faire notre truc. Et on en avait tous une. Et on faisait tous chacun notre pose.
Il y en avait un qui faisait tournoyer son flingue et qui le mettait. Il y en avait un qui essuyait sa lame et qui la rentrait dans son fourreau. Enfin, chacun avait une espèce de gimmick comme ça en mode.
Ah ouais, c'est
la cutscene de fin de combat de Final Fantasy, quoi.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup ça aussi dans les Star Ocean où à la fin il y a toujours ces espèces de phrases, t'as même des secrets autour de ces phrases.
Enfin, et effectivement l'idée de gagner des niveaux où tu conseilles de mettre une musique un peu il faut le faire, et même moi quand je faisais des révélations je mettais la musique de Zelda quand il trouve un trésor. Ils ont la carte, ils tapent.
Tu vois, ça fait partie aussi des sas de décompression parce que les thématiques sont graves, le jeu est lourd, il y a de l'ambiance, il y a de l'horreur, il y a du fantastique, et puis il y a ces sas de décompression en fait qui permettent de se lâcher,
c'est comme ça qui est important.
Est-ce qu'il y a d'autres tours positifs, Jérémy?
Donc l'utilisation en effet du matériel, c'est-à-dire que on a quand même on a un échiquier devant nous, c'est hyper agréable. On se projette, on voit pas le plateau, on voit la scène en fait. On voit pas les dominos.
Je suis assez d'accord avec toi parce que moi, quand je me souviens en fait du jeu, c'est ça qui est rigolo parce que on a tous des souvenirs en tant que rôliste quand on s'imagine en fait l'endroit où on a joué. Moi, très souvent en fait, je vois des scènes ou des choses comme ça. Et moi, en fait, quand je m'imagine le plateau, je vois une partie plateau, mais les petits trucs que tu avais posés dessus, en fait, j'imagine des sofas, des décors, ouais, etc.
Exactement.
C'est rigolo.
Moi,
je
voyais une maison, je voyais un entrepôt, je voyais ce qu'il fallait voir quoi.
Je pense notamment à une scène où vraiment l'échiquier s'efface.
Il y a une scène où l'échiquier est utilisé merveilleusement bien.
On n'en dira pas plus.
Le différent matériel, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il faut avouer que c'est avoir les cartes personnages des méchants, c'est pareil, ça aide tout de suite au personnage de visualiser qui c'est. Et puis nous, derrière, on a toutes les informations nécessaires. Heureusement que là, ça, parce que du coup, ça serait toujours ouvrir le bouquin.
C'est ce que je faisais moi au début dans mes playtests, c'était chiant. Oh là là.
Et ça aide. Le système de l'Opus Dei, j'aime bien. J'aime bien parce que même si on n'était pas forcément toujours rigoureux au bout du compte.
Peut-être pour les gens, rappeler ce que c'est le principe de l'Opus Dei.
Eh bien, alors, du coup, on a un dé important, c'est le plus gros dé qu'il y a sur la table.
Un gros D6.
Qui commence à 1 et à la fin de la scène il faut essayer d'être le plus proche du 6 et pour arriver le plus proche du 6 il faut en fait que simplement être dans le jeu tout simplement
faire des hypothèses,
faire des
sujet
propositions
du jeu, intéressantes, jouer son personnage comme si on était un comédien de doublage, je crois il y a des trucs, des conseils comme ça.
Donc plus
c'est grâce à ce dé qu'on a trouvé une des meilleures révélations, je me rappelle, ça nous avait beaucoup fait rire.
Et donc, du coup, c'est un d'immersion, ce qui nous permet de se dire, on va vivre un moment entre nous, on va faire en sorte de le vivre vraiment à fond. On éteint les téléphones portables, je mets l'ambiance, là, la musique qui aide. Et ce dé d'immersion fait, on ne sort pas du jeu, on est dans le jeu. Même s'il a le délire du jeu, on s'empare du jeu. Et ça, c'est bien. Et donc, du coup, ça donne un intérêt de manière ludique, la mécanique ludique.
Il permet de donner des bonus
points
d'XP en jeu.
Il donne des pecs.
Plus, et permet aussi de réussir certains jets d'actions libres.
Voilà, exactement.
Donc cette idée de faire des actions libres, c'est bien. Il faut le rappeler qu'il n'y a pas la règle de forcément bouger, attaquer, quoi que ce soit. Mais à un moment, on dirait, vous pouvez faire aussi un peu ce que vous voulez. C'est juste que si ça demande, si c'est une forme de certaines difficultés, vous devez faire un jet du coup. Et plus votre opus DI est grand, plus le jet aura de chances de réussir en fait, parce que c'est un bonus pour les joueurs. Donc j'aime bien aussi ce tout petit mécanique là, mais qui fait beaucoup.
Et à propos de l'immersion, François, et des mécaniques qui participent, il faut à mon avis aussi parler des primes de style.
Oui, bien sûr, cette fameuse prise de style. Alors, mes deux joueuses ne l'ont pas utilisée, ils ont bien compris l'intérêt d'une prime de style. Parce que du coup, moi, mes méchants faisaient du style, et pour le dire, je les invitais.
Regardez, faites ça. Ouais.
Faites ça, et du coup, Bishop faisait ça, donc du coup il avait beaucoup de primes de style.
Ah ouais, d'accord.
Et à chaque fois je disais oui, génial.
On sent bien quand même dans ton retour, juste une parenthèse, que le joueur de jeu de rôle tradi est quand même avantagé sur les deux autres, hein, en termes de gameplay. On sent qu'il comprend mieux, il réussit à découvrir plus de révélations, il réussit à...
Alors je pense que mes deux joueuses ont bien compris aussi ce truc-là. Peut-être parce qu'il avait beaucoup de choses aussi pour les joueurs, comme il y a la mécanique. Là, le fait de faire du roleplay, là, le fait de réfléchir à l'histoire, peut-être que ça faisait beaucoup de choses et qu'elles étaient peut-être plus happées par l'histoire, que du coup, au bout d'un moment, on se dit bon, comme j'arrive pas à générer quelque chose de prime de style, elles l'ont pas fait. C'est peut-être ça. D'accord. Pour eux, ça, c'est un peu bloqué. Pour eux, c'était un point négatif, cette affaire. La prime de style n'était pas négative, mais c'est juste que pour eux, ils n'ont pas pu profiter de ce système-là.
Et du coup, ils en sont sentis un peu frustrés quand même.
Et peut-être, ouais. D'accord. Ça a dû jouer.
Très bien.
Voilà, grosso modo, est-ce qu'il y a d'autres questions
Jérôme a pris, pendant que tu parlais, je crois, Jérôme
plein d'informations.
Une page entière de notes. Donc, Jérôme, nous t'écoutons. Je pense que toi aussi, tu as des retours à
une très grande page. Je vais surtout noter ce que tu as dit, Jérémy. Et je vais Parce que j'ai quasiment les mêmes retours à faire, donc je vais noter, je vais beaucoup répéter ce que tu as dit en disant oui, ça c'est vrai, ou je vais aller plus loin, ou rajouter...
Alors toi tu jouais avec, est-ce que tu pourrais nous présenter ta table un petit peu ?
Alors ma table, grosso modo, c'est une de mes tables qui a fini sens.
Ah ça c'est très intéressant aussi, ouais.
Voilà.
Donc, ils sont assez habitués à certaines mécaniques, comme l'immersion par
voilà,
exemple,
donc exactement. Le PCI, ouais. Donc, et pour certains qui avaient déjà joué aussi à Donjons et Dragons avec moi pendant des années...
Ce sont des rôlistes.
Voilà.
Là, on peut parler vraiment de gens qui ont l'habitude, une culture rôliste
ouais,
importante.
Contester des jeux indé en plus à côté, des Unmighty Sioux, des cordes sensibles, enfin ce que tu veux,
cool.
En voilà.
C'est
quoi.
Cool d'avoir ton retour aussi, ça donne vraiment un bon panel.
Donc voilà, des gens qui jouent pas au jeu de rôle en dehors de. En fait, quand ils jouent avec moi. Mais jamais ils ont acheté un bouquin, jamais.
C'est pas des lecteurs de jeux, quoi.
Non. Sauf pour un d'entre eux. Bref. Alors. Pour eux aussi, les introspections, ça n'a pas été facile. Les introspections étaient très peu utilisées, quasiment pas avant un moment vers la fin, deuxième moitié du troisième épisode à peu près, où ça commence vraiment à devenir dur. Ouais. Au niveau système, quoi, les ennemis commencent à devenir balèzes, on commence à se taper des boss qui cognent. Donc là, ils ont commencé à comprendre que oui, il fallait quand même un peu utiliser ce système pour gérer un peu sa souffrance.
C'est dommage qu'ils y aient été contraints. Parce que moi, dans l'idée, j'avais l'idée que c'était des scènes classe et que les gens, ils auraient envie de jouer des scènes d'introspection. C'est les seules scènes qui permettent de parler à la première personne du singulier.
On en a fait pas mal, en vrai.
Enfin, ouais, mais nous aussi, quand j'ai joué.
Ce sont les seules scènes qui permettent de passer en focalisation interne et de parler des pensées de son personnage. De dire, et là, je regarde la pluie, je pense à ma fille, je pense à... Tu vois ce que je veux dire, c'est... Et du coup, moi, j'avais même dans l'idée, tu vois, j'avais même diminué les récompenses qu'elles apportaient tant les joueurs avaient envie d'en faire.
Je confirme, quand nous on a joué, on en faisait une chacun entre toutes les scènes tout le temps. Quoi.
Et alors, enfin, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai playtesté le jeu, c'était évident pour tout le monde que c'était cool, et donc ils en faisaient plein. Et quand j'ai eu les retours des gens qui playtestaient le jeu en externe, je me suis rendu compte que, ah non, nous on en a pas fait, nous on en a pas fait, nous on en a pas fait. Alors là, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que moi, quand je maîtrise le jeu, les gens ils aiment en faire et ils veulent en faire? Est-ce qu'il n'y a pas une technique de MJ que j'utilise indirectement? Je me suis posé des tas de questions.
Et dont tu n'as jamais.
Que j'ai pas écrit, du coup, donc j'ai pas conscience. Ouais. Ça, c'est une des grosses énigmes qui me reste au terme de Vanemecom. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme?
Je ne sais pas. Franchement, je pense que c'est pas si facile que ça, en fait. Et puis, il faut avoir envie de raconter les pensées de son personnage.
Bah, si tu dis qu'il joue à des jeux.
Je trouve que Vademecum est un jeu dur. Pas facile. Ah. Exigeant. Et fatigant pour les joueurs comme pour les MJ. Les, voilà.
MJ.
Bon, pour suivre Queen, qui est pas mal paumée et qui se retrouve pas mal suiveuse. Je l'ai eu aussi.
Ah ouais?
Ouais.
Parce que moi, à chaque fois que j'ai joué Queen, justement, j'étais plutôt leaduse du coup.
Ouais, mais toi, ça m'étonne pas.
Ok. Ça compte pas.
Dis la co-directrice de la cellule.
Non, d'accord. Parce que le personnage, ouais, n'a pas beaucoup d'infos auxquelles se raccrocher et. L'épisode 3, ça a eu du mal à bouger.
Je me rappelle pas si j'étais très actif et très leader, enfin leaduse quand je jouais Queen, mais en tout cas, le maelstrom, la tempête sous le cerveau avait grandement lieu dans mon esprit.
Ça, par contre, oui, niveau maelstrom, oui, le joueur était réfléchissait beaucoup.
Parce
ça,
que de fait de cette amnésie et tout ça, il y avait beaucoup d'interrogations sur ma propre identité. Sur ces choses-là qui étaient vraiment très présentes, quoi. Enfin, je m'ennuyais pas et j'étais pas en train de suivre bêtement.
Personne ne parle d'ennui, hein, par contre, on parle d'exigence et de fatigue, etc.
Et aussi du fait que à quoi tu te raccroches alors que les deux autres ils sont flics, ils sont machin, c'est eux qui te fournissent un uniforme. On dit voilà, ça va être. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Je sais pas si c'est important ou si c'est révélateur de quelque chose. T'as cité Jérémy, les scalpels. Et moi, du coup, j'ai autorisé le joueur à prendre les couteaux de lancer, à les renommer en scalpels en gardant les mêmes caracs.
Bah oui, parce que,
parce que c'était vraiment trop cool, un bishop qui balance des couteaux de lancer. Bon, voilà.
C'est marrant que, en tout cas, l'idée ait émergé dans deux tables différentes. Moi, ça n'a jamais émergé, cette idée.
Je me demande s'il y a pas un personnage de jeu vidéo, genre un jeu de combat, fighting. Ou,
peut-être.
Un truc comme ça, ou un manga. Je sais pas. En fait, quand vous parlez de ça, ça m'a ça me tout de suite fait penser à un personnage de manga qui sort ses scalpels un peu sadique. Enfin, je sais pas, ça m'a fait marrer.
C'est vrai que c'est le toubib, en plus, il soigne. Donc, alors, pareil sur les difficultés à l'interprétation, au roleplay. Les joueurs qui ont tendance à lire les cartes, enfin à dire le nom des cartes, et avec peu de primes de style. Vraiment jusqu'à la fin, là encore une fois, où là par contre, il y a eu l'espèce d'épiphanie dont tu parlais, Fly, le moment où on slash. J'ai eu quasiment que King qui a vraiment eu le.
Pourtant, il y a Ptolémée et Croussem qui poussent à faire putain du style, quoi. Enfin.
Bah, je sais pas. En fait.
La première fois où je l'ai utilisé, j'étais main en croix en train d'hurler mon truc. Enfin,
après, le fait de lire les cartes, c'est normal quand on parle de la magie, puisque le magicien doit lancer ses sorts en les disant.
Ça,
ce qui est aussi là aussi une trace de l'œil noir et des vieux jeux de plateau de rôle.
Mais sur le fait d'aller au contact avec l'ennemi.
Pour le coup, c'est vraiment l'œil noir, c'est pas les chevaliers de Zodiac, François, je t'entends te moquer de moi en dehors des micros. Jérôme.
Là, je sais plus, là, du coup.
Pardon, je suis désolé.
Oui, voilà, ouais. Le joueur qui commençait à aller au contact, a commencé à vraiment taunter les ennemis, à balancer du roleplay de King, qui est là, alors qu'est-ce que t'as, t'en veux encore
Ça, c'est cool.
Voilà, ouais, mais il a eu du.
Il a mis du temps, ont eu du mal, ouais, du ils temps sont à restés, lâcher, en fait.
Et les autres sont pas mal restés crispés aussi. Hein. Le Bishop a pas mal géré, mais il était beaucoup dans l'analyse et dans la retenue, donc ça se voyait moins.
C'est dur comme retour, ça. Ça veut dire que les joueurs, ils restent autour de l'échiquier crispés, enfin, comme si le
jeu. Pas forcément, c'est pas. Ça veut aussi dire peut-être qu'ils sont vraiment concentrés sur l'histoire. Parce qu'en fait, t'oublies qu'il y a vraiment plein de niveaux de jeu, en fait. Et que ça se trouve, il y a juste un niveau de jeu qui leur plaît plus qu'à un autre.
Je suis assez d'accord.
Parce que ça se trouve, à ta table, c'est juste qu'ils sont vraiment restés à fond dans la recherche des révélations.
Ça, c'est vrai que je me souviens d'avoir.
Parce qu'on a 40 000 choses à penser, en plus. Hein.
Ouais. Bah oui, c'est le principe du maestro.
En fait, moi je me rappelle, d'ailleurs quand j'ai joué, moi ça me l'a fait. Hein. J'avais du mal à roleplayer parce que j'avais trop de trucs à penser. Quoi. Et quand, pour roleplayer, ça me demandait un effort de penser à autre chose en plus.
Question centrale et peut-être première, du coup, est-ce qu'ils ont aimé en
fait? Oui, oui, oui. Ça, ils ont kiffé à fond, on a fait la campagne, on a même rajouté le scénario bonus de Maxime qu'ils ont voulu faire. Quoi, pour
sur le forum,
j'ai fait des scènes bonus aussi, ouais.
Ah, tu l'as fait aussi ?
J'en ai fait, alors c'est pas celle de Maxime, mais j'ai fait des scènes bonus, effectivement, je voulais lâcher un peu plus sur certains trucs.
Je suis sûr que ça ressemble quand même beaucoup à la scène de Maxime.
Ah, sûrement.
Donc sur le forum, donc on précise, sur le forum de Vademecum, Maxime propose d'ajouter une scène que je vous invite. Donc si vous êtes seigneur de Vademecum et que vous écoutez ce podcast, vous pouvez vous rendre sur le forum, regarder, fouiller dans les threads. Et parmi eux, il y a un scénario en plus, enfin un échiquier ou deux en plus proposé par Maxime.
C'est un fan service qui est très fun.
Voilà. Que vous pouvez rajouter un plug.
Je confirme également.
Campagne principale.
Pardon.
Jérôme.
Je confirme également les durées de partie assez longues, hein, 5 heures, 5, 6 heures. D'habitude, je ne joue pas aussi longtemps, c'est rare.
Mais je crois que ce qui est dit, c'est 4 parties de 6 heures, donc 24 heures.
Ouais. Et effectivement, j'ai pas réussi à compresser. D'habitude, même quand on me dit 6 heures, j'arrive à faire du 4, 4 et demi.
Et on est d'accord que tu joues avec 4 joueurs.
3.
3 ?
Ouais.
Alors là, tu me surprends beaucoup. Parce que logiquement, à 3 joueurs, tu diminues tu divises la campagne par enfin tu perds un quart de temps de la campagne. Tu perds 6 heures en gros.
Beaucoup de choses
à 3,
faire.
Tu fais 3 heures, tu fais 3 fois 6 heures et à 4, tu fais. Ah ouais.
Est-ce que
tu
as fait la scène aussi de la base qui est vraiment centrée sur Knight ou pas? Parce que moi, je l'ai sauté vu que c'était centré sur Knight et le jeu de personnage Knight n'y était pas. Je l'ai vraiment mis de manière. Dans l'histoire, le décor. J'ai signalé qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais que les joueurs, du coup, n'ont pas joué parce que je considérais que ça ne les touchait pas personnellement.
D'accord.
Et du coup, ça a fait gagner, forcément.
Jérôme, alors, en fait, ils étaient 3 et ils ont eu des moments où ils étaient en difficulté.
Sans spoiler, toujours.
Oui, oui. Et comme ils étaient en difficulté, j'ai fait intervenir le personnage de Knight en Deus Ex pour leur filer un petit coup de main à un moment.
Mais c'est exactement comme ça que je m'en sers. Ouais.
Voilà, ouais. C'est écrit dans le bouquin, il me semble.
D'accord.
Et du coup, quand ils ont appris que voilà, il y avait un scénar autour de Knight, ils y sont allés quand même, tu vois, pour lui renvoyer l'ascenseur.
Ah, okay. C'est chouette.
Donc ça explique top. Aussi que déjà, ça rajoute un peu de temps.
Donc voilà, des séances assez longues. Je plus vois le côté fréquent. À mon avis, la table où je dis que je vais avoir du mal à la finir, c'est justement parce qu'on a fait qu'une partie et ça commence à faire genre 2 mois. Et ça, même peut-être. Plus, ouais.
Il va falloir faire un bond dans l'épisode previously.
Oui, ça va pas être facile. Bon, voilà. Donc oui, les parties fréquentes, je plus soi, c'est avec ma table qui a fini, on a fait nous aussi une fois toutes les deux semaines, c'était tous les lundis, toutes les deux semaines, hop, et ça a roulé comme sur des boulettes. je confirme aussi que le matos, c'est vraiment un gros point fort, c'est super cool. Moi, je suis allé à ces 2 €, je me suis acheté une petite pendule et je la réglais tout le temps, donc ils avaient en visuel aussi l'heure qui défilait.
Ça, c'est pas mal, hein. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais.
Et c'était super chouette. Donc voilà, tout ça, la petite... je me suis retrouvé une de mes vieilles micro-machines pour mettre sur le plan et tout. Enfin voilà, c'est...
Ça, c'est classe. Avait...
C'est cool, ça. Et à chaque fois... je regrette que tu ne l'aies pas fait, la micro-machine.
La micro-machine, je l'ai fait pour certaines tables. Ouais, je crois que j'avais fait...
Micro-machine, c'est une toute petite voiture jouet. Des années 80. François qui dit, mais c'est quoi une micro-machine?
Voilà. Je crois qu'il en existe encore. Hein.
Ça peut se trouver. Ouais. Moi, c'est un truc de Kinder, je crois, en plus, hein, que j'avais.
Ouais, voilà.
Pas vraiment une vraie, quoi. Au matos, ouais, bah, je m'amusais aussi hein, à disposer les fiches bien autour de l'échiquier avant qu'ils arrivent, mettre les 3 pions, enfin les 3 pièces, roi, fou, reine, face à toute l'armée noire que j'alignais en face, un peu, voilà, quoi, ouais. Seul contre tous. Et je mettais aussi à chaque fois un petit tic-tac blanc à côté de chaque fiche.
Ah, j'ai fait le coup du tic-tac.
Ah, c'est vrai.
Oui. Putain, oui, la première chose avant de commencer toute la partie, c'est, tenez, je vous donne ceci.
T'as donné un tic-tac à tes joueurs?
C'est ça.
Genre, c'est un vademécum, quoi.
Ouais, mais moi aussi, il y avait un tic-tac.
C'était
ouais.
Ça était un peu cette idée-là. Sans dire ce que c'était, et à te comprendre. Est-ce qu'il y a un retour?
Je crois pas qu'ils ont
dit.
Il faut savoir que cette idée m'a été proposée par Vincent Mainviel, qu'on invite souvent aussi à la cellule, qui a l'occasion de fréquenter ses micros. Et donc, on devait acheter à l'origine un sachet de gélules sans rien dedans. C'est les gélules de base. Et fournir effectivement 2 gélules avec la base du jeu. Ça aurait fait un goodies, etc. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que... Imagine quelqu'un qui a un problème, un malaise ou quoi, qu'en prenant la pilule ou... Enfin, on peut imaginer tout, tu vois. Enfin... Et du coup,
il a eu sa casse-pied de femme qui a dit mais tu te rends pas compte, il y a des allergies possibles.
Bon, je voulais pas dire que c'était toi qui avais été casse-pied dessus, mais
moi j'assume.
Effectivement, c'est un peu toi qui m'a découragé de faire ça. Parce que si jamais il y avait eu un problème, tu vois, même si c'est pas lié à ça, et ben les gens auraient pu dire bah oui, mais on sait pas si elle était vide ou pas la capsule. Alors ce qui est rigolo d'un point de vue ludique pouvait entraîner des complications d'un point de vue juridique. Donc voilà, j'ai préféré éviter ça. J'ai pas les droits, j'ai pas d'accréditation pour vendre ce type de matériel. Je vends du matériel jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de justifier.
Non, mais après, nous, on se débrouille à notre table.
Voilà, chacun fait ce qu'il veut.
Mais il me semble qu'on en a parlé sur le forum, hein, de toute façon. Donc,
oui, c'est sur le forum. C'est le forum qui m'a donné l'idée.
D'accord.
Oui, parce que quand on en a parlé et que t'as dit non, on pourra pas le faire, on s'est dit bon, on va le mettre sur le forum, les gens le feront tout seuls. Okay. Et d'ailleurs alors, j'ai une anecdote rigolote.
Jérôme.
J'ai pris un de mes joueurs à part le premier jour, j'avais tout préparé avant qu'ils arrivent, donc ils sont arrivés, je les attendais à l'étage, on est descendu à la cave pour jouer.
Et dans la fameuse cave.
Voilà, la fameuse cave, et tout était prêt déjà, quoi. Avec les 4 fiches, ouais. les 4
tic-tac. C'était beau, t'avais pris une photo.
Enfin, les 3 fiches, les 3 tic-tac, ouais. Et donc j'avais pris un de mes joueurs à part, parce que donc, j'ai un de mes joueurs qui est diabétique. Et je ne sais pas à quel point, enfin voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai mis des trucs, c'est des tic-tac, donc j'ai mieux de prévenir si c'est, enfin...
Si tu peux pas le manger...
Voilà, si tu peux pas, bah voilà, tu le manges pas, quoi.
A priori, un tic-tac, ça devrait le faire.
Mais bon, je voulais le prévenir, quoi. Parce que bon, voilà, j'y connais rien, il sait mieux que moi. Et il a mal compris ce que je lui ai dit. Et quand ils sont arrivés autour de la table, alors tous, ils ont commencé à faire, tiens...
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et lui, direct, il a fait, ah, c'est ça qu'il faut pas que je mange. Et du coup, personne ne l'a mangé.
Tape l'ambiance direct. Excellent.
Alors que l'autre table, par contre, ils sont arrivés. Oh, des tic-tac, gloops.
Oh, merci, tu penses à tout.
Excellent.
Donc voilà, c'était très drôle. Les cartes en trop, je ne sais pas. J'avoue que l'idée de cartes qui en remplacent d'autres, ça peut être pas mal. Moi, mes joueurs m'ont fait leur tour qu'il y avait des cartes qu'ils avaient trouvées un peu inutiles au bout du compte. Vraiment très situationnelles et à n'utiliser qu'une fois, quoi. Vraiment.
J'ai adoré ça. Ça fait partie de mes cartes préférées.
De quoi ?
D'avoir des cartes où justement elles sont situationnelles, qui sortent qu'une fois, mais du coup tu dis il faut que ça sorte au bon moment.
Ah, on a fait un podcast la saison dernière là-dessus. C'est ce que Adrien Cahuzac appelle le gadget dans un jeu, le petit truc qui...
Bah moi j'ai adoré.
Ah, mais toi tu parles de celle où c'est écrit qu'on ne peut s'en servir qu'une fois.
Ouais.
Je pense que Jay parle de d'autres cartes qui en fait ne peuvent servir que dans un cadre très particulier.
Trop particulier.
Il y a un sort de Queen par exemple qui cible à peu près le centre de l'échiquier qui est assez difficile à placer de manière utile, sauf à un moment, je trouve.
Mais quand tu peux le placer, c'est cool.
Oui, il est très très cool ce moment.
Ouais. Mais voilà,
c'est pas écrit sur l'affiche qu'il sert qu'à un moment.
Il y a des trucs, ouais, voilà, un peu comme ça. Bon, ça, voilà, c'est un retour qu'on m'a fait.
De toute façon, rien ne vaut tolérer une Koussem.
Alors nous,
désolé, je l'ai utilisé non-stop.
Alors nous, on l'a trouvé que c'était le sort le plus nul, le plus
surcoté. Mais il est nul, mais en vrai, c'est trop classe de faire une croix.
Je ne sais pas, parce que c'est vrai que quand on a playtesté avec François, Vincent et Garrick, il n'y avait pas eu de problème. Donc je ne sais pas comment ça s'est fait. L'Opus Dei, ouais, cool. C'est toujours un peu comme dans le sens difficile de le baisser quand tu l'as déjà monté.
Alors moi,
c'est les joueurs qui peuvent proposer de le baisser aussi. Hein.
Moi, à un moment, je me suis baissé pour moi-même. Ah. C'est-à-dire que je faisais une blague qui avait rien à voir. Et je fais, oh non, mais je sors du jeu, pouf, je descends. Les joueurs sont, non. Puis après, bon, bien sûr, c'est pour me remonter plus rapidement derrière. Mais
c'est vrai, oui, bah oui. Dans un sens, le MJ peut être sanctionné.
Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Oui, oui. Mais oui, bah moi, oui, c'est les joueurs qui m'ont sanctionné aussi. Une
fois, t'avais
pas arrivé.
Sanctionné une fois pendant le playtest d'ailleurs, toi.
De Vademecum.
Ouais. Ah,
si, bien sûr. Ce qui n'était pas possible à Sens. Ça m'avait toujours frustré d'avoir pas mis cette règle dans Sens. Je me suis dit, ah, ça
si tu m'amènes sur un autre truc, c'est pas une critique ou quoi. Là, c'est plutôt une anecdote. Et par contre, moi, un constat que j'ai eu.
Jérôme.
Bon, c'est pas un secret, hein. Les persos gagnent des niveaux. C'est pas facile d'atteindre le niveau max à la fin.
Non, c'est pas facile du tout.
C'est pas facile. Et pendant le dernier, donc l'épisode 4, à un moment, on commence à compter tous les points. Et on se dit, mais merde, avec ce que vous venez de battre, vous avez toujours pas assez d'XP, quoi.
Ouais, ouais, c'est normal.
Et là, il y en a un qui fait, t'as pensé à l'Opus Dei ?
Non.
Et à un point près, ça leur a permis de passer le niveau. C'était magnifique. L'Opus Dei les a sauvés, c'était super.
C'est difficile d'atteindre effectivement le niveau 10, c'est ça que tu veux dire.
Ouais.
Ouais. Le dernier niveau est très difficile.
Niveau max.
Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, comme vous le savez, dans la base, il est écrit que quand à un moment donné les scènes de discussion tirent sur trop long, le seigneur peut faire intervenir en fait les pions noirs pour interrompre l'action. Donc j'avais prévu aussi qu'il y ait éventuellement quelques petits bonus.
Et puis il y a aussi les révélations qui vont donner des bonus d'XP.
Oui, tout à fait, il y a ça.
Qui sont optionnels, entre guillemets.
Et puis, il y a la petite scène bonus de Maxime aussi.
Tiens, c'est marrant. Il y a quelque chose qui me vient.
On peut tout à fait
ajouter des éléments.
Et ce que je veux dire, c'est aussi qu'on peut tout à fait arriver à la fin du jeu sans avoir atteint le niveau max.
Au niveau 7 ou 8 est suffisant, je crois.
8.
8, ok, très bien. Ça n'est plus...
Un truc marrant, c'est arrivé que j'ai des grands dialogues et je ne les ai pas interrompus avec une fusillade ou un truc parce que mes joueurs roleplayaient assez peu. Donc j'étais content, en fait, quand ils en faisaient.
D'accord, ouais. Ça, c'est voilà. Normal, tu vois.
Oui. Là où on doit les interrompre, c'est sur les discussions qui mènent un peu à rien, quand des joueurs sont en train de planifier la situation pendant 3 ans.
Ou alors quand tu vois qu'il y a un joueur qui est foncièrement en train de se faire chier. Parce que ça arrive aussi, tu sais, qu'il y a des gens qui discutent entre eux et puis il y en a un qui décroche ou qui a pas intérêt dans cette discussion-là et du coup, paf, c'est toujours bien de patcher. Puis l'idée aussi, c'est de laisser... Tu vois, tu dis c'est exigeant, c'est fatigant. Bah oui, parce que l'idée, c'est de laisser aucun temps mort. Les joueurs n'ont... Enfin, ça, t'es toujours sur le grill, en fait, dans Vademecum. C'est vraiment un jeu d'action, quoi.
Je vais y venir à ça, après. Je finirai là-dessus. Donc oui, je reviens juste un petit peu là-dessus. Je l'avais noté, donc... C'est vrai que la prime de style, il y a un côté un peu comme pour ta joueuse de Queen, Jérémy, qui... où, à la fin, ils disent... Ah merde, on a loupé le coche avec ce truc, on aurait pu en profiter tout le long et
on l'a sous-exploité. Quoi.
Ouais, on l'a pas piffé comme il le fallait, quoi, ou autant qu'on aurait pu.
D'accord.
Encore une fois, se lâcher, ça arrive plus ou moins tôt dans le jeu. Je pense que ça arrive plus vite si tu connais bien les gens avec qui tu joues et que tu as déjà eu l'habitude de faire des jeux qui nécessitaient du roleplay et tout ça.
On se connaît depuis genre 10 ans.
Ah ouais, c'est vrai.
Et on a fait une campagne de D&D de plusieurs années. On a fini jusqu'à Sens en entier.
Ouais, bah oui.
Donc, ouais, même le côté des potes n'a pas suffi là non plus.
Peut-être parce que justement le jeu met trop la pression et que du coup, bah, y a des gens qui se lâchent pas sous pression, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est.
pour le matos, les fiches, c'est super cool. Moi, en début de partie, je n'utilisais pas de technique pour rappeler les scénars un peu en mode flashback. Je leur laissais les fiches qu'ils avaient déjà gagnées avant. Je leur laissais 5-10 minutes pour qu'ils rediscutent entre eux et qu'ils relisent. Et généralement, c'était suffisant. C'était suffisant jusqu'à un certain point. Le même point que tu as soulevé, Jérémy, quand tu as dit qu'il y a des révélations qui ne sont pas en fiches. C'est-à-dire qu'il y a des révélations méga importantes qui sont vers la fin, dans la deuxième moitié, qui ne sont pas en fiche, et donc quand on arrive pour le dernier épisode, là, c'est, s'ils s'en rappellent pas d'eux-mêmes, c'est au seigneur de leur rappeler, parce que le matos ne suffit pas à leur... Là, je peux rien dire sans spoiler, mais il y a vraiment des...
Oui, il y a des éléments très importants qui ne sont pas dans les fiches.
Et elles ne sont pas en fiche parce qu'elles arrivent de manière forcée à un moment et qu'on ne peut pas les deviner.
Ah non, c'est vrai.
Juste que c'est des fiches qui ont été oubliées.
Elles ne sont pas en fiche parce que j'ai eu certaines parties dans lesquelles le joueur l'avait deviné en avance et le fait de lui donner la fiche pétait le jeu.
Oui.
Parce qu'il y a trop de trucs écrits sur la fiche.
Parce que, en fait, le seigneur ne peut pas tout confirmer. Il y a certaines révélations. Si le seigneur les confirme, les joueurs partent dans des certitudes qui les font péter le jeu. Le jeu casse. Le jeu se brise.
Il
n'y
a plus la réflexion derrière, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la subtilité de ces fiches, c'est qu'il faut qu'elles soient... Alors, c'est compliqué à expliquer. C'est un espèce d'entre-deux un peu difficile à tenir. Il faut que ces révélations puissent être trouvées en avance, mais sans qu'elles pètent le reste des scènes du jeu.
Moi, ce que j'en ai compris, c'est que du coup, les révélations étaient vraiment liées au personnage et les révélations qui manquaient, c'était plus à l'histoire globale.
Alors, ça, c'est tout à fait vrai, effectivement. Si on pouvait résumer, on peut résumer très simplement la chose comme ça, effectivement. Ouais, tout à fait. Alors que les problématiques, elles portent sur l'histoire globale, justement.
C'est ça.
Et elles sont volontairement beaucoup plus floues. C'est-à-dire que quand le joueur cherche une bonne piste, quand il est sur un bon truc, par exemple, quand en termes de symbolique, par exemple, il a compris que tel personnage, grand personnage historique, telle célébrité est impliquée, il y a toujours une petite problématique qui est liée à ce personnage historique qui nous fait dire « Ah oui, on cherche dans la bonne direction ». Pour autant, cette problématique ne confirme pas directement que c'est le cas. Elle ne fait que dire « Tu te poses les bonnes questions, tu cherches dans la bonne direction ». C'est pour ça qu'il y a une différence entre les problématiques et les révélations. Les révélations concernent en propre les personnages, alors que les problématiques concernent l'histoire globale, les trucs, effectivement.
Je suis d'accord.
Les trucs généraux.
Je confirme que l'histoire, c'est le gros point fort.
Yes !
Vraiment, ça marche du tonnerre. Hein,
Je suis hyper contente d'entendre ça.
Ouais, moi aussi, putain.
Les personnages qui... Enfin, cette espèce de...
On peut pas dire.
Comment on pourrait dire, non, mais ouais.
C'est compliqué d'en parler sans spoiler. Hein.
Mais les révélations sont à la hauteur de l'attente.
Les personnages sont charismatiques, leur histoire tient debout. Il y a une grosse importance. Il y a des choses.
Il y a des choses qu'on attendait depuis longtemps qu'on voit pas ailleurs, en fait. Enfin, moi, je trouve, il y a des trucs. Ah oui, enfin.
Tellement d'accord avec toi, avec ton sourire, je sais de quoi tu parles et je suis d'accord avec toi.
Rien que l'idée du vadémécom en soi, en plus, sans trop en dire, rien que l'idée, c'est génial. C'est vraiment ça, quoi.
C'est marrant. Bon, bref, faut pas spoiler, faut rien dire du tout. Donc ça, c'est cool. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un des éléments... Bon, comme vous le savez, moi, je fais des jeux qui sont participationnistes, dans lesquels les joueurs n'ont pas le contrôle direct de l'histoire et sont plutôt invités à glisser sur un grand toboggan et à en prendre plein la gueule, à découvrir une histoire qui est écrite à l'avance et qui est bien fichue et à y participer, à y mettre leur
grain de sel. C'est une qualité dans le jeu. Hein.
Voilà.
Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que dans le jeu, c'est complètement assumé. Dans le livre, tu dis bien sur la scène qui avait justement posé problème dans notre
playtest. Et dans ce sens aussi, tu vois. Dans ce sens aussi, il y a des passages obligés. Tu vois.
La scène d'intro avec. Il y a une scène d'intro avec Queen où elle doit suivre King. Et il est bien écrit dans le livre qu'à ce moment-là, si jamais les joueurs ne veulent pas, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix, voilà, c'est ça, exactement.
C'est complètement assumé. Mmh. Et je trouve que c'est un choix qui
mais tu vois,
assumé marche bien, quoi.
Mais dans le choix de game design là, si tu choisis de faire du participationniste, t'as intérêt que l'histoire elle soit béton. Parce que les gens ils veulent pas uniquement assister à un conte, à une histoire, à machin. Si l'histoire est décevante, non seulement ils ont pas guidé l'histoire, non seulement tu vois, leurs actions n'avaient pas tant d'impact de ça pour l'histoire, mais en plus l'histoire est nulle, alors là ils sont un peu déçus. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut leur proposer un spectacle. Moi, oui, je propose du spectacle. Pour moi, le jeu de rôle, c'est un art du spectacle. Tu vois, moi, je leur propose un spectacle qui tient la route. Et donc, du coup, d'entendre l'histoire, elle est cool. Ça me fait vraiment plaisir, quoi, parce que ça veut dire, voilà, ça tient la route.
Elle est cool, ça tient la route,
mais
c'est vrai qu'il y a des trucs où on peut en ressortir avec un sentiment de
d'inachevé.
Voilà, c'est ce que je cherchais le mot, mais oui, c'est celui qui me passait en tête là au moment où tu l'as
je
dit.
Je crois savoir à quoi tu fais référence.
Voilà, donc et ce sentiment d'inachevé est par contre complètement contrebalancé, donc je reviens quand même là-dessus. C'est l'histoire est cool, et non seulement elle est cool, mais c'est voilà, grosso modo, t'as une intro de l'enquête qui s'approfondit, et l'épisode 4, c'est boum, climax tout le temps, quoi. Bam, 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 là, il se passe que des trucs énormes et tout. Vraiment, on arrive à la fin, c'est fou, quoi. Tous les combats, toutes les révélations, tout est dingue.
D'où le fait de vraiment faire, selon moi, un arrêt avant l'épisode 4. Parce que si t'es fatigué quand t'arrives à l'épisode 4, je pense que juste c'est pas possible, en fait, à jouer.
C'est nul.
Ouais.
Et du coup, ça
parce que juste, t'as juste envie de dire « Stop, stop !» Alors que si t'as fait la pause, je pense que t'es à donf, quoi.
Ouais, oui, oui. Bah nous, comme on jouait une fois toutes les deux semaines, ça allait, mais vraiment...
Les campagnes de ce genre-là, on peut les voir comme des séries télé. À un moment, le final de saison, on ne le regarde pas forcément après cette farcie 6 épisodes avant. Quoi. Non,
on a déjà vu 4.
On se réunissait à 21h, on finissait vers 3h généralement. Mm-hmm. Pour le dernier scénar, on s'était réunis 2h plus tôt, pour être sûr. Quoi.
D'accord.
Voilà, voilà. Et le dernier point, c'est hardcore. Sérieux.
À maîtriser, tu veux dire.
Non, mais oui, on vient de dire à jouer déjà. On vient de le dire. Mais aussi à maîtriser, tout à fait. Tu dois regarder tes fiches. Alors, lui, il a combien en Aegis ? Ok. Toi, tu te déplaces, tu fais ça. Attends, je dois tirer une carte, c'est vrai. Oh, où j'ai mis ma clope ? Combien de clopes se sont consumées dans mon sandard du fait que j'ai pas le temps de les fumer parce que je faisais trop de trucs partout ?
Eh ben, c'est bien. Ça lutte contre ton cancer. Mmh. Ça lutte contre le tabagisme. Vois les choses positives.
Je me suis tabagisme passivement tout seul.
Hein ? Le vademécum est un médicament, rappelons-le.
Oui, tout à fait.
Non, mais voilà quoi. Vraiment, c'est, là, le MJ DJ, c'est l'homme orchestre. Hein. Vraiment, tu dois avoir t'as des pompons partout. Tu cours, tu sautes, tu cries.
Mais ça marche.
Et ça, Fly confirme aussi. Hein,
ça
dit, là,
ça fatigue, et c'est cool.
Elle me disait, quand je t'ai vu maîtriser ça, c'était.
Je me sens pas de. Faut savoir que moi, je suis un MJ où faut que le système de règles soit très léger parce que j'arrive pas à retenir j'ai du mal à faire pas mal de choses, en fait. Moi, j'ai besoin d'être un peu dans une position de joueur MJ. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, moi, je suis incapable de masteriser un jeu comme Vademecum. Je kiffe, du coup, par contre, être joueuse à ce genre de jeu parce que je peux enfin être joueuse avec plein de choses à faire parce que moi, j'aime bien, en fait, vraiment faire plein d'actions, réfléchir, mener des trucs, faire mon roleplay, réfléchir à plusieurs choses à la fois. C'est vraiment un truc qui me plaît. Par contre, je suis incapable de faire ça en tant qu'MJ. Et moi, je me sens pas de masteriser ce jeu. C'est juste pas possible pour moi.
Bah, ce que vous dites là, en fait, c'est que dans le fond, Vademecum, c'est un jeu hardcore. C'est un jeu pour les MJ qui pensent que vraiment ils sont forts et tout ça. Donc, les MJ qu'on vademécum dans leur bibliothèque, on peut dire oh, c'est classe d'avoir vademécum.
C'est des bons MJ.
Ouais, alors là, c'est des MJ. Tu vois, donc du coup, tu peux te dire.
C'est surtout.
Donc, du
c'est
coup, achetez vademécum, comme ça vos copains auront l'illusion que vous êtes bons. Vous, je sais pas.
C'est surtout
achetez
que.
Vademécum et vous allez gagner 5 cm.
C'est un jeu où il faut être capable, en fait. Tu vois, je vais reparler de Magic. Je suis une joueuse de Magic assez. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs comme moi.
Comme toi, ouais.
De joueurs et de joueuses. Moi, j'ai besoin de. Je triple l'histoire, en fait, de Magic. Donc, quand je monte, en fait, mon deck, la première chose que je fais, c'est de vérifier s'il va y avoir une histoire qui se tient dessus. Bon, ensuite, je me fais défonce, donc je suis obligée de rajouter des cartes. Et donc, quand je joue, en fait, pendant que je joue, j'imagine en même temps l'histoire qui se fait. Bon, il faut que je fasse attention au truc devant. Ok, qu'est-ce qu'il a posé ? Ah, mais c'est trop bien, ça va avec l'histoire que j'ai posée. Donc voilà, je suis là et en même temps, je suis pas là.
Je procède pareil.
Et du coup, en fait, il y a d'autres joueurs de Magic, type Romaric, qui sont là et qui voient, en fait,
les chiffres,
ce qui se passe devant eux, qui sont capables de dire mais la carte festive, non mais c'est cool, et qui s'éclatent là-dessus. Et je pense que si vous êtes ce type de joueur-là, capable de faire vraiment plein de choses à la fois, bah c'est, vous êtes capable de masteriser ça. Mais si vous êtes comme moi, un petit esprit un petit peu nébuleux, en train d'imaginer l'histoire, enfin, oh mais c'est trop bien, ben moi je pourrais mettre cette carte là dans mon jeu parce que c'est trop cool, ça va avec mon jeu Sorin, bah vous pouvez pas masteriser Vademecum parce que vous êtes pas, vous êtes ici en même temps ailleurs. Par contre, du coup, moi qui suis en même temps là et en même temps ailleurs et qui ai besoin de faire plein de choses à la fois pour m'amuser en tant que joueuse, et ben du coup ça c'était cool pour moi en fait, Vademecum.
Ok. Donc voilà, je pense qu'on
j'ai peut-être un dernier point.
Ouais, je t'en prie.
L'histoire est cool,
mais
c'est vrai qu'il faut peut-être avoir les codes.
On va arrêter ce podcast.
On en parlait cet après-midi.
Il y a trop de mails. Non, finissons l'année sur l'histoire est cool.
Tu me feras pas taire.
Non, vas-y, je t'en prie, Jérôme.
On en parlait cet après-midi. Il faut peut-être avoir les codes
de ces jeux vidéo
japonais qui mélangent toutes les références et
c'est difficile quand on n'a pas les codes du jeu de rentrer dans l'univers du jeu dans... c'est vrai, c'est vrai.
En fait c'est un côté très Metal Gear, c'est ce que tu disais Jérémy, est-ce que il y en a qu'on dit que c'était un défaut du jeu, que ça les sortait le côté ridicule de certains trucs comme les noms John Drugstore etc. Mais quand on joue à Metal Gear, c'est ça. On nous parle d'une histoire méga sérieuse avec des complots, des gens qui se font tuer. Et puis, il y a
puis
Johnny.
On se cache derrière une boîte.
Ouais, je voilà, tiens à dire que j'ai jamais joué à Metal Gear et que j'ai surkiffé Vademecum en
tant que
joueur.
Et puis, il y a Johnny qui a la diarrhée, quoi. Enfin, voilà, c'est...
Alors, moi, j'ai vu, en fait, j'ai vu les gars jouer à Metal Gear à l'époque, le premier sur PS1. Mais je vous ai vu jouer, j'ai pas tout vu. En revanche, ouais, j'ai dû voir un petit peu l'histoire du 2, mais vaguement. Moi, ce que j'ai surtout, en fait, c'est le bagage ludique autour des FF, etc., qui m'a permis de m'amuser un peu là-dessus. Mais sinon, c'est surtout tout ce qui est série, etc., que j'avais autour. Je fais pas de... Enfin, je suis une fan d'X-Files. J'ai été une fan de la première saison de Vatkar Kono quand elle est sortie. Je l'ai revue. Ça a pris un coup de vieux, mais à l'époque, c'était complètement fou, mon Dieu. Et voilà, c'est ces choses-là, en fait, pour lesquelles moi, j'avais surtout les références, mais pas tout à fait pour les autres, en fait.
François.
Moi, je dois dire que c'est pas foncièrement nécessaire. Les seules références que j'avais, c'était le JRPG, les vieux Final Fantasy. J'ai une culture
c'est
de films d'action
mal, hein.
Très limitée. J'en ai vu quelques-uns, je connais quelques codes, mais très légers. J'ai pas joué à Metal Gear et toutes les références à ces choses-là, je les ai pas.
C'est pas les références qui sont.
C'est pas empêché de d'apprécier parce que
c'est
en fait,
ça,
si ces choses-là
François.
Sont devenues des références, c'est parce qu'elles sont bien.
Mais en fait, c'est pas du tout mon propos. Je dis pas que si t'as pas les références, tu profites pas du jeu. Je dis que si c'est pas ton truc.
Ouais.
Ça va être compliqué. Il y a vraiment si tu veux être dans
c'est
le sérieux tout le temps.
Tu veux dire, c'est difficile.
Ouais.
Mais c'est vrai de n'importe quel jeu et j'ai envie de dire de n'importe quel objet de culture. Oui. Je veux dire, moi, j'oblige mes parents à. Bon, je vais dû prendre même l'exemple de mon grand frère. Mon grand frère, si je l'oblige à regarder Le Seigneur des Anneaux, il va m'étriper. Hein. Je l'ai déjà obligé à aller voir le premier Seigneur des Anneaux au cinéma avec moi. À la fin, il m'a regardé, il m'a fait, je te préviens, Flavie, plus jamais. Ma copine, une de mes meilleures amies, je l'emmenais voir toujours des films de science-fiction, tout ça. Je lui ai fait « Ah, faut que tu regardes Star Wars ». Un jour, elle m'a dit « Je vais te montrer en fait ce que tu m'obliges à faire ». Elle m'a emmenée voir une comédie romantique. C'était affreux. Pour moi, et oui, si, ben, globalement, quand il y a un truc qui n'est pas fait pour te plaire, il ne te plaira pas. Enfin, je veux dire,
espèce de geek. Fin.
Oui. Je vais pas. Maintenant, j'ai compris. Je l'oblige plus à mater du Star Wars, sauf quand elle me le demande, quand elle est dans sa face à Harrison Ford. Mais voilà, à un moment, si j'ai pas envie qu'on m'emmène voir une putain de comédie romantique avec Kate Winslet et Cameron Diaz,
sa main se crispe sur la table. Flavie,
les dents se serrent.
Ne casse pas cette table. C'est la table sur laquelle on fait la cellule depuis 10 ans.
1h30 d'ennui mortel. Je comprends en fait. Je vais pas obliger quelqu'un qui a pas envie de, qui aime pas la science-fiction à jouer à Vademecum. Enfin, ça me paraît du bon sens total.
Mais est-ce que c'est encore une fois ce que vous voulez dire, Jérôme ? Je crois que ce qu'il veut dire, c'est si vous avez les... En fait, on peut le traduire de façon positive en disant, si vous avez les codes des séries Parasitive, X-Files, 24 heures chrono et Metal Gear...
Surtout Metal Gear.
Ce sera beaucoup plus facile d'entrer dans le canon esthétique du jeu et donc de si j'ose dire, de chinter beaucoup des difficultés qu'on a nommées ici. Regardez, la prime de style, par exemple. Bah oui, si vous avez joué à tous ces jeux, vous saurez exactement à quoi vous attendre. Regardez, les révélations. Bah oui, si vous avez joué à ces jeux, vous saurez dans quelle direction chercher. Hein. Et c'est valable pour beaucoup des problèmes, j'en oublie, hein, mais c'est sans doute valable pour beaucoup des problèmes que vous avez cités ce soir. Et donc, ce que dit Jérôme, c'est que c'est un facilitateur. Et que, aussi, à l'inverse, oui, quand on n'a pas les codes, eh bien, forcément, bah, aussi vrai que ça facilite le jeu de les avoir, ça le rend plus difficile de ne pas les avoir. Je t'ai bien compris, Jérôme ?
C'est pas les avoir, les codes, c'est surtout les aimer, mais oui.
Les aimer, d'accord, ok.
C'est ça.
Tu vas au-delà de... Très bien. Merci, Jérémy. Merci, Jérôme.
De rien.
François, au terme de ce podcast, ça t'a donné envie de maîtriser le jeu, toi qui n'en es que lecteur ?
J'avais déjà très envie de le maîtriser. J'attends okay. juste mais des
moi,
joueurs.
Moi, j'ai encore envie de le maîtriser. J'espère.
Tu le referas. Ah,
ouais. J'espère. Parce que j'ai pris un kiff à le maîtriser. J'ai pris un kiff à le jouer, j'ai pris un kiff à le maîtriser. Et j'ai envie de refaire encore une fois cette expérience.
D'ailleurs, François, j'ai oublié, mais au moment où tu parlais de la difficulté à maîtriser, j'avais dit que je ferais peut-être un retour de Garrick qui n'est pas là. Je peux parler en son nom.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Il y a une remarque qu'il a fait lorsqu'il a fait jouer le premier scénar de Vademecum. Il a quand même expliqué que le matériel était d'une grande aide. Et que d'avoir tout présent et que toutes les instructions sont dans le livre et présentes, ce qui veut dire qu'en gros il a eu à relire un tout petit peu le livre avant la séance, mais pas grand chose. Il est arrivé, il a mis les pieds sous la table, il a ouvert le livre, il a lu ce qu'il fallait faire, il l'a fait et la séance a marché.
Ouais, il disait,
donc
il
ça,
disait,
ça faisait beaucoup de choses à faire
effectivement dans
mais
son retour,
pas besoin de savoir ce qu'il fallait faire quoi.
Je précise que son retour est accessible aussi via le forum, hein. Vous pouvez lire son retour.
Donc,
il disait qu'il lisait le livre. Quasiment, il n'avait pas besoin de réfléchir. Lui, pour le coup, il ouvrait le livre, il lisait et il disait « ça marche ». Prenez le livre, vous l'ouvrez, vous lisez, ça marche.
Je confirme ça, c'est vrai.
Donc c'est à la fois difficile parce qu'il y a plein de choses à faire, mais en même temps facile parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une énorme préparation du coup, d'une certaine manière. Et en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir son scénar complètement
voilà,
en tête. Avoir le matériel et le livre,
ouais,
ça permet de le
et
faire.
Là, tu viens de dire un truc essentiel, tu viens de parler du mot préparation, c'est vraiment le mot-clé, c'est-à-dire qu'on m'a tellement reproché sur Sens Renaissance d'en faire chier mes MJ en termes de préparation.
Là, toute la préparation est
là,
faite.
Là, toute la préparation, je l'avais faite en me disant « Bon, là, cette fois-ci, les gars, vous n'allez pas pouvoir dire qu'il y a du boulot pour le MJ. » Puis les premiers retours, c'est « Oh, c'est dur pour le MJ !» Enfin, tu sais, ben oui, normal, parce que du coup, j'ai fixé des difficultés ailleurs. Du coup, il n'y a plus la préparation, ça, mais il y a tellement de difficultés autres que voilà.
Non, mais ça marche bien, c'est cool. Voilà.
T'avais d'autres idées autour de Garrick, François ou
fait... À part ça, pas grand chose.
Sinon, encore une fois, vous pouvez trouver son retour via.
Il a spécifié que ça avait beaucoup intrigué les joueurs. Il a joué en Assos.
Il a dit qu'à peine sa première table avait commencé, qu'elle en avait déjà parlé à ses autres joueurs et que du coup, il y avait une file d'attente.
Ça plaisait
pour jouer,
pas mal. Ouais. Ouais.
Ça fait plaisir aussi. Ça veut dire que le jeu intrigue. Et là, encore une fois, je pense que l'histoire y est pour beaucoup, tu vois. Je pense.
Bah, ils étaient aussi intrigués par les mécaniques, apparemment. Le coup de jouer avec un échiquier, c'était des joueurs très tradis. Et ils étaient un peu intéressés par ces mécaniques aussi, l'Opus Dei, tout ça.
Le nombre de parties où on n'a pas de plan et on regrette de ne pas en avoir. Là, au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose. Et...
Ça, pour avoir un cadre, t'as un cadre. Est-ce que tu conseillerais de mettre Vademecum dans une ludothèque, du coup ? Toi qui es ludothécaire, est-ce que tu conseillerais de... Enfin, est-ce que, d'après toi, après ce que tu as vu, ce que tu as lu de la base, du jeu, de son matériel, est-ce que tu penses que c'est sa place... Enfin, est-ce qu'il aurait sa place dans une ludothèque ? Parce que c'était quand même un de mes objectifs.
S'y approche.
Mais c'est pas encore ça.
Non. Pour moi, il est peut-être un peu trop exigeant, au moins pour les MJ. J'aurais ce que je voudrais, moi, comme jeu de rôle à présenter dans une bibliothèque qui pourrait ranger, c'est je passe le truc. Vous connaissez rien de tout ça. Et c'est bon, c'est parti. Là, j'ai un peu peur pour les MJ. Waouh, c'est peut-être beaucoup pour une première.
Ouais, je comprends. Okay.
Mais on s'y approche parce qu'il a plein de mécaniques qui facilitent justement des choses. Le matériel aide beaucoup. On s'y approche.
Merci à tous, merci Jérémy, merci Jérôme.
Vive le vent,
joyeux Noël.
Noyer Joël.
Tu mets une petite cloche.
À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, on se retrouve à la rentrée.
Salut.
Bonne année.